Commençons par la prière. Notre Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, nous remettons nos cœurs à toi. Et l'orateur en premier, moi-même, afin de m'aider à trouver des bons mots, pas pour un sujet que nous connaissons tous. Sujet qui se répète jour après jour et qui me parle, moi le premier. Celui de la sanctification, de la repentance ou du réveil, qui n'est rien d'autre que la vie chrétienne normale. Souvent, on pense que le réveil, c'est une vie chrétienne extraordinaire qui sort de l'ordinaire, mais en fait, tout simplement, c'est une vie chrétienne normale à laquelle l'Église tout entière est appelée à vivre. Je te prie d'enlever encore une fois tout ce qui peut venir de moi-même, de l'homme, et que mes frères et sœurs et moi-même, nous ne gardons que ce qui vient de toi, que ces paroles soient vivantes, qui donne la paix, l'amour, la joie, mais en même temps, cette responsabilité, cette crainte divine, sainte. Merci. Et en ton sein, en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sujet s'impose de lui-même. On cherche des thématiques, mais on revient toujours à la même chose. La repentance et la sanctification. Des instruments d'une vie chrétienne normale, qu'on appelle le réveil. Et on lit des bouquins sur les réveils. Et on dit, ah, il y a eu le réveil du 19e siècle, 16e, 15e siècle. En fait, le réveil, c'est tout simplement un chrétien réveillé. Réveillé qui vit sa vie, la vie chrétienne normale, dans un ordre divin. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand j'étais petit, j'obéissais à mon père, souvent à mon père qui était dur. Souvent, on me rétorque, c'est la montagne, c'est la culture orientale. Mais tous n'étaient pas durs. J'en ai connu qui n'étaient pas durs. Mon grand-père n'était pas dur. Voilà. Mais j'avais un père qui était dur. Il imposait des règles morales à la maison. Il l'imposait avec une discipline de fer. Égare à moi si je m'écarte. Parce que je sais ce qui m'attend. On le sait, mon frère le sait aussi. On en discute souvent, mais c'est comme ça. Et souvent, j'obéissais. Des fois, j'obéissais parce que j'aimais mon père. Mais souvent, j'obéissais par peur. J'obéissais parce que j'avais peur d'être puni. Oui, ne pas le dire, je vais me mentir, c'est la vérité. Mon frère dit la même chose. Posez-lui la question. Les enfants posaient à tonton la question, il vous dira. Cette attitude emmène souvent les jeunes de mon âge, quand j'étais jeune, et en même temps, je pense à nos enfants. Les jeunes, à se révolter. Et on peut dire, quand j'avais l'orage, je comprends quand on impose par la discipline de fer. La discipline produit alors l'effet inverse. Et pourtant, dans la vie chrétienne, il y a une discipline. J'entends déjà des remarques et des préconisations qui avancent l'idée qu'il ne faut rien imposer. Nous sommes dans un monde de liberté. Je ne veux pas qu'on m'impose. C'est qu'on m'impose ces disciplines, qui dit discipline, hop, je vais me révolter. Vous n'avez pas le droit. On peut être tenté de remettre en question les bienfaits de la discipline. Car l'absence de discipline, mes frères et sœurs, vous le savez à travers l'histoire, c'est l'anarchie dans le pays. Imaginons un pays où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline. Mais c'est l'anarchie totale. Et ça, tout le monde le paye. Je veux dire par là que l'ordre et la morale, c'est-à-dire la bonne conduite dans la vie de tous les jours, est une chose bonne pour soi, bonne pour son entourage, bonne pour la société et bonne pour notre Dieu, notre Créateur. Mais cette conduite doit être vécue comme une conséquence naturelle de l'amour. J'aurais aimé obéir à mon père parce que je l'aime. Mais pas parce que j'ai peur de lui. L'amour que nous portons à ce qui est de plus cher en nous, c'est-à-dire notre Dieu. L'amour que nous portons à nous-mêmes, l'amour que nous portons à notre entourage, l'amour qu'on portons à la société. Et cet amour doit engendrer en nous, tout naturellement, une conduite, une discipline. C'est une contrainte vécue avec et dans l'amour. C'est parce que j'aime ma famille, je connais leur morale, je sais comment se comportent mes parents, je les aime, que je vais me comporter d'une façon pour ne pas les blesser. Ce n'est pas la même chose. Je me discipline parce que j'ai peur de mon père. C'est avec et pour l'amour du Seigneur, pour ses brebis, qu'il a chassé, le Seigneur a chassé les marchands du temple à Jérusalem. Et souvent on présente le Seigneur comme le père fouettard. C'est parce qu'il aimait son peuple, ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14, 33. Je le relis. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix dans toutes les églises des saints. Il s'agit bien évidemment de l'ordre dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire à l'église. Dans les dictatures, vous connaissez les dictatures, on obéit sous la contrainte et dans la peur. On obéit par peur. Ces peurs mènent dans l'histoire à des révolutions souvent sanglantes, y compris dans l'histoire de France. La vraie obéissance est celle qui est le fruit de l'amour. S'il n'y a pas d'obéissance, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir d'obéissance. Et s'il n'y a pas d'amour, je peux fabriquer l'obéissance. Ça devient une conforme. On se conforme à un monde qui n'est pas le nôtre. L'amour de Dieu nous pousse à changer de vie, à devenir un témoignage vivant pour les autres. L'amour s'alimente quotidiennement de la repentance et mène vers la sanctification qui nous permet de vivre en nouveauté de vie. D'ailleurs, soyons clairs, et nous le répétons le plus souvent possible. Je vais vous lire un passage dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Hébreux 12, 14 et 15. Voilà l'apôtre Paul ce qu'il dit aux chrétiens d'origine hébraïque, aux Hébreux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je tiens à le répéter parce que ça m'a parlé ce passage. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelle recommandation, quel avertissement. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés? J'ai pris un exemple en réfléchissant dans mon bureau. Je dis, mais quel exemple je vais prendre? Il y a une pensée qui m'est venue. Un fumeur dépendant de la cigarette. Souvent, on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. D'accord? Et des fois, il ne veut même pas s'arrêter. Il est tellement dépendant de la cigarette. Il dit que lui est impossible tellement il en dépend. Et on peut le comprendre. C'est une drogue. On dépend. Ça peut être la cigarette ou l'alcool, d'ailleurs. On peut être dépendant. Mais quand ce fumeur apprend qu'il a un cancer de la gorge. Un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve la force de s'arrêter. Ce monde dit, je ne peux plus rien faire. Et d'un seul coup, il trouve des forces, je ne sais pas d'où viennent, et hop, il dit, ah, je vais m'arrêter. Des fois, c'est un peu tard. Mais il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il a peur de mourir. On est bien d'accord. Il a peur de mourir. Ou parce qu'il se découvre un cancer du foie. Il dit, maintenant, le médecin nous dit, arrête-moi. Mais comme par hasard, on trouve la force de s'arrêter parce qu'on a peur de mourir. Donc, il s'arrête, on peut dire il s'arrête parce qu'il a peur de mourir, ou on peut dire autrement. Il s'arrête parce qu'il aime la vie. On aime tellement la vie qu'on peut s'arrêter quand on est dépendant de la cigarette parce qu'on est malade, on a un cancer ou de l'alcool. Il s'arrête car il aime la vie et ne veut pas mourir. Alors, nous chrétiens, est-ce que nous rendons compte qu'on est dans une situation pareille, mais en pire? Le péché mène à la mort. Et je sais que je suis en train de mourir. Je continue à pécher? Parce que quand je vais mourir, c'est fini. Alors comportons-nous pareil avec le péché qui fait mal au cœur de Dieu, comme le recommande l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, voilà ce qu'il leur dit. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte, car dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous appelle, ce n'est pas une option de vivre dans la crainte, en cherchant à ce que sa vie soit changée. Comme le fumeur qui se découvre un cancer et par la même occasion il découvre qu'il aime tellement la vie qu'il s'arrête de fumer, est-ce que nous aimons tellement la vie pour décider de changer de vie? À la simple différence, c'est que la vie à laquelle nous nous attachons est la vie éternelle. Est-ce que nous aimons tellement la vie éternelle que nous décidons de changer notre vie? Est-ce que nous aimons Dieu au point de haïr et de s'éloigner du péché? Est-ce qu'on sait que le péché mène à la mort? Mes frères et sœurs, la sanctification dépend de notre degré d'amour pour la vie, c'est-à-dire pour Christ. Je parle de la vie avec un grand V, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'amour de notre Seigneur bannit la crainte. L'amour nous fait vivre tout naturellement dans l'obéissance de notre Seigneur. L'amour anime en nous la repentance et le désir de sanctification. Si nous aimons le Seigneur, nous cherchons la repentance et la sanctification. Si nous continuons dans le péché, consciemment, nous n'aimons pas le Seigneur. Notre repentance et notre sanctification dépendent de notre degré d'amour de notre Dieu. Si nous aimons Dieu, nous acceptons avec joie et bonheur les sacrifices auxquels il nous appelle. C'est aussi un principe de vie quotidien dans sa propre famille. La repentance est un acte d'obéissance. La repentance est un sujet très sérieux pour Dieu, car il émane de Dieu lui-même. C'est le moyen qu'il a donné à l'humanité de revenir à lui depuis l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 22, verset 12. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à vous ceindre de sac. En fait, il est en train de nous dire de vous repentir. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils sont à se repentir. C'est en naissant de nouveau que l'homme abandonne sa vie de pécheur et qu'il devient une nouvelle créature. Un homme juste marchant dans la sainteté, obéissant à Dieu. Bien évidemment, il arrive dans notre marche avec le Seigneur, en tant que chrétien, né de nouveau, de chuter. Oui, ça fait partie de notre nature, nous sommes des êtres humains limités. Nous chutons et péchons contre Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous demande constamment de faire l'examen de notre vie, de nous remettre en question et d'être humble devant lui. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ne veut pas dire que nous avons l'accès assuré au paradis. Et souvent nous entendons ce message-là, qui crée aucune responsabilité chez les chrétiens. Les pharisiens et les sadducéens pensaient que comme ils obéissaient à la loi de Moïse, qu'ils étaient sauvés. Matthieu, chapitre 23, verset 13. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. On est tellement convaincus qu'on dit aux autres aussi. Et on emmène tout le monde dans l'erreur. Non, il n'y a pas une assurance d'aller au paradis avec une vie qui n'est pas conforme à celle du Seigneur. Il faut bien comprendre que le processus de repentance ne s'arrête pas une fois baptisé. Non. C'est un processus qui continue et qui s'associe à un nouveau processus qui s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est ce qui nous permet, en tant que chrétiens nés de nouveau, de démontrer par nos actes de repentance et les fruits de nos repentances. Nous devons porter les fruits de la repentance, c'est-à-dire notre changement de vie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, je lis. Et là, ça s'adresse aux chrétiens. Mais à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils doivent changer radicalement et se tourner vers Dieu avec des œuvres dignes de ce changement radical. Avec des œuvres dignes de ce changement. Et là, je vais partager avec vous un petit texte que j'ai lu hier avant-hier, de Hayden Wilson Tozer. Vous connaissez le nom de Tozer. Ce pasteur connu, cet homme de Dieu qui a vécu, on va dire son ministère, qui a vécu au 20e siècle. Il est né en 1897, son ministère a commencé dans les années 1920, et ça a duré jusqu'en 1963, année de son décès. Je vais partager avec vous un petit passage qui s'intitule, c'est le titre, « Il existe des prières vaines, il existe des prières inutiles ». Alors, déjà, le titre, ça m'a interpellé. Ça m'a poussé à lire. Il dit, pourquoi il dit des prières inutiles? Ça n'existe pas, ça, quand je prie, c'est pas inutile. Et quand je le lis, ça m'a interpellé aussi dans ce sens-là. Voilà, je vous le dis. Il n'est pas long, hein, j'aurai terminé. Le courant de protestation qui avait pris naissance dans le Nouveau Testament et qui s'était toujours fait entendre avec force quand l'Église était puissante, a été réduite au silence. L'élément radical du témoignage et de la vie qui firent haïr les chrétiens par le monde a disparu du mouvement évangélique actuel. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les chrétiens furent pendant un temps des révolutionnaires sur le plan moral et non pas politique. Mais nous avons perdu ce caractère révolutionnaire. Il n'est désormais ni dangereux ni coûteux d'être chrétien. La grâce n'est non pas gratuite, mais bon marché. Nous sommes aujourd'hui affairés à prouver au monde qu'ils peuvent avoir tous les avantages de l'Évangile sans aucun de ses inconvénients susceptibles de déranger leur mode de vie habituel. Nous leur disons, vous pouvez tout avoir avec le ciel en prime. Cette description du christianisme moderne n'est certes pas universelle. Mais elle reflète ce que vit l'immense majorité des chrétiens d'aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est inutile que de nombreux chrétiens passent de longues heures à supplier Dieu d'envoyer le réveil, c'est-à-dire une vie chrétienne normale, en fait, si nous n'avons pas l'intention de changer, autant ne pas prier. Si ceux qui prient ne sont pas prêts à se laisser éclairer, avoir assez de foi pour corriger toute leur façon de vivre et la rendre conforme au modèle du Nouveau Testament, il n'y aura pas de véritable réveil, c'est-à-dire il n'y aura pas de véritable vie chrétienne normale. Prier est parfois non seulement inutile, mais également coupable. Voici un exemple. Israël avait été vaincu à Haï, donc c'est une région à 4 heures environ du nord du Jéricho. Israël avait été vaincu à Haï et nous est dit dans Josué chapitre 7 verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Selon notre compréhension moderne du réveil, c'était bien la chose à faire. Et en insistant ainsi suffisamment longtemps, Dieu aurait dû se laisser convaincre d'envoyer la bénédiction et dire, voilà, Israël, vous allez vaincre. Mais il est écrit. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Parce qu'il était en train de prier et implorer le Seigneur. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, et les ont dérobées, et ont dissimulées, et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec eux si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. On peut prier, mais si il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de réponse du Seigneur. Il nous faut un profond changement au sein de l'Église. Supplier Dieu de répandre sa bénédiction sur une Église rétrograde et désobéissante est une perte de temps et d'effort. Une nouvelle vague d'intérêt religieux ne pourra qu'ajouter des membres et des églises qui n'ont pas l'intention de plier sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, ni d'obéir à ses commandements. Dieu ne s'intéresse à la croissance des auditoires que dans la mesure où ceux qui les composent changent leur voix et commencent à mener une vie de sainteté. Le Seigneur a dit un jour une parole par le prophète Ésaïe qui devrait régler cette question à jamais. Et là, il nous cite le passage Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 9. Ésaïe 1, 11 à 9. Je vous le lis. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites le droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviennent blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La prière pour le réveil sera exaucée quand elle sera accompagnée d'un changement radical de vie. Et pas avant. Même de nuit, même des nuits de prière qui ne sont pas précédées de repentance pratique peuvent en fait déplaire à Dieu. Car, il met entre guillemets, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il nous faut revenir à un christianisme néo-testamentaire, non seulement sur le plan doctrinal, mais aussi dans toute notre façon de vivre. L'obéissance, l'humilité, la simplicité, le sérieux, la maîtrise de soi, la décence, savoir porter sa croix, sont autant de valeurs qui doivent de nouveau faire partie intégrante de notre compréhension globale du christianisme et être vécue au quotidien. Il nous faut purifier le temple de tous ces marchands et changeurs de monnaie et nous placer tous à nouveau sous l'entière autorité de notre Seigneur ressuscité. Et cela s'applique autant, parce que là il termine par ça, et il dit, et cela s'applique autant à l'auteur de ces lignes, c'est-à-dire de lui-même, pour lui-même, qu'à quiconque confesse le nom de Jésus. Nous pourrons alors prier avec assurance et nous attendre à ce qu'un réveil, c'est-à-dire une vie chrétienne normale, s'ensuive. Voilà sur le texte sur lequel je suis tombé à travers un titre curieux et que j'étais en train de préparer le message. Que chacun soit saint devant Dieu. Je pense que nous avons une responsabilité devant Dieu, tous individus, personne n'est parfait. La repentance et la sanctification. Et ça mène à la vie et la joie, parce que le message doit toujours se terminer par la vie, par la paix, par l'amour, et que Dieu nous aide. Amen.